Gredin.
Oui.
Je voudrais du marbre.
Du marbre? Vous travaillez le dur aussi?
J'ai fait du granit à la campagne.
Du rhinocéros, du granit, vous aimez la difficulté, mademoiselle Claudel. Votre ami Boucher m'a dit que vous aviez quitté l'Académie Colarossi, c'est vrai?
Oui. Pourquoi? Nous n'aurions pas dû?
Ah non, non. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous apprenne? Et ne comptez pas sur l'inspiration. Elle n'existe pas. Une sculpture demande du temps. Il faut la laisser se reposer. L'oublier pour mieux la juger.
Je sais, je ne l'ai pas fini. Elle n'est pas terminée.
Allez. On va réfléchir chacun de son côté. Et puis, pour les leçons, on verra. Après tout, je ne suis pas le seul professeur à Paris. Allez, mesdemoiselles, bonsoir.
Bonsoir.
Bruno Nuiten est ce soir notre invité à l'occasion de la ressortie de son Camille Claudel en salle, d'une exposition de photographie et de sa récente rétrospective à la Cinémathèque française. Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique avec Yaël Naïm, Ima.
Ima lo poredet, Ima ako. Hevet ima sham bikte o ima kanish eret kmo bechalom yofi vetom veleolam atayechet boi ktana. שלי בואי ננשום מתוך תוכי את נוצרת
Mama
Depuis quand aimez-vous la nuit?
Oh, depuis toujours, je crois.
Même tout petit, d'habitude, les petits-enfants ont peur du noir.
Non, moi, ça me rassure, le noir, ça m'a toujours rassuré. Je ne sais pas pourquoi, mais même petit, oui, je me souviens, j'aimais bien ça, oui. Ne pas plus deviner les choses que les voir, quoi. Et puis, surtout, être caché soi-même. Non, j'adore la nuit, et puis je m'y sens... Enfin, j'attends désespérément la nuit pendant le jour, et désespérément l'hiver pendant l'été.
Tous les jours?
Tous les jours, oui.
Que faites-vous la nuit?
Je vis. Je fais des choses assez banales finalement, et des choses quelquefois moins banales. Mais je me sens bien, c'est là où tout me va, quoi. Tout me va. Et puis ça permet de réfléchir aussi. Parce que la nuit, c'est aussi du silence. Donc c'est pas mal. Et puis ça permet de rêver, et puis ça permet d'avoir des cauchemars aussi. Non, ça permet beaucoup de choses, c'est un espace de liberté. Le jour est très contraignant quand même. Enfin, la conscience est toujours très contraignante. La conscience est quand même plus intéressante, il me semble.
Donc vous aimez voir dans le flou ?
Ah non. Non, non, il y a une forme de netteté dans la nuit que je trouve très intéressante. Non, au contraire, je pense que la nuit, c'est... Il faudrait la traiter dans sa profondeur, il ne faut pas penser du tout au flou. Non, non, au contraire, ce sont des choses qui sont très définies, sont des plans très définis, sont des choses très précises mais très inquiétantes quelquefois, et qui posent toujours question dans leur définition. Mais si on les traite en flou, ça me semble moins intéressant.
Le noir est une couleur, dit Pierre Soulages, vous êtes d'accord avec lui ?
Bien sûr. Enfin, le noir au cinéma, c'est pas comme le noir en peinture, c'est compliqué. Le noir, déjà, il n'existe pas dans les salles de cinéma, puisqu'il y a toujours des lumières de sécurité. Donc c'est difficile, le traitement du noir au cinéma. Dans la peinture, c'est très différent. Je pense que c'est une affaire de pigments, donc c'est tout à fait différent. Mais effectivement, c'est évidemment une couleur, évidemment. Je peux pas vraiment épiloguer là-dessus, je suis pas peintre.
Non, mais vous êtes cinéaste, donc un homme de la lumière qui aviez pour mission, je parle au passé, puisque vous avez décidé d'abandonner le cinéma, on reviendra sur cette rupture amoureuse, mais vous avez pendant quelques bonnes décennies eu comme métier de mettre la lumière.
En fait, ça a été très court, hein. Ma vie est coupée en tranches de 15 années à peu près, je me suis rendu compte de ça.
C'est pas volontaire.
C'est pas volontaire, mais ça doit correspondre à un cycle. C'est-à-dire que quand je me lasse des choses, c'est au bout de 15 ans. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Je n'ai fait que 15 ans de lumière au cinéma. J'ai commencé jeune, enfin, j'ai commencé un peu avant 25 ans, et puis j'ai arrêté à 40 ans. Pour passer à autre chose. Après, j'ai fait 15 ans en essayant de faire de la mise en scène. Puis là est arrivé effectivement un moment de rupture où j'ai plus eu envie du tout de la fiction, en fait. Et comme j'étais incapable d'autre chose, j'ai préféré arrêter. Et après, j'ai passé 15 ans à réparer les choses, quoi.
Ça veut dire quoi, réparer les choses ?
C'est-à-dire que je tournais un film, en fait, pour Pierre Chevalier, d'ailleurs, qui vient de disparaître, qui s'appelait Jim la nuit, pour Arte, donc. Et j'étais sur un cargo, un porte-container qui remontait vers le nord, dans lequel je tournais. Et j'ai assisté donc au 11 septembre sur une télévision déréglée dans ce grand bateau avec un commentaire en islandais parce que c'était un bateau islandais. Donc c'était totalement surréaliste évidemment. Et puis au port le soir, j'ai découvert ce qui s'était passé. Et plus tard, je me suis retrouvé dans la situation de filmer des ours polaires à Vladivostok devant les ours. En plus, c'est une situation un peu dangereuse parce que j'étais dans la cage avec les ours et mon assistante. J'ai plus envie de déclencher la caméra. Il me semblait que le spectacle de ces gens qui avaient mis des ours sur une piste de cirque me semblait plus intéressant que de les filmer. Bon, c'est une petite alerte. Après, j'ai fini par monter le film que j'avais tourné pour Pierre Chevalier. Mais c'est revenu. En fait, j'avais plus envie, quoi. Et surtout, j'avais envie de réparer les choses. Alors, ça tombait bien, parce que j'étais dans une maison où il fallait tout réparer, qui était une maison à retaper, en fait. Et je sais pas si c'est l'effet du 11 septembre, mais il me semble que la fiction, pour moi, c'est la fin de la fiction. On est au-delà de toutes les fictions, et c'est la fin de la fiction. Et même si on pense documentaire, c'est dès l'instant où il y a une image, qu'elle soit documentaire ou pas, la fiction est forcément là, puisqu'on ne montre pas ce qui est hors de cette image. Donc on est déjà dans une fiction. Donc j'ai pensé documentaire, et puis finalement non, je me suis dit, il faut que je passe à autre chose. Donc je suis passé simplement à 15 ans de vie. Alors j'ai changé effectivement de mode de vie aussi, parce que je gagnais bien ma vie, enfin correctement ma vie avec le cinéma. Donc je me suis reposé les questions différemment, voilà. C'est plutôt bien.
Mais vous savez tout faire. réparer chaise, oui. Réparer un évier, réparer l'électricité.
Il y a des choses que je sais pas faire. Je sais pas réparer un ordinateur, par exemple. J'ai essayé, hein, mais je n'y arrive pas. Non, je sais pas tout faire. En plus, je suis pas le plus habile du monde, mais j'adore les outils. Voilà, j'aime bien tout ce qui prolonge la main. J'aime bien les mains. Et je m'en sers au mieux que je peux. Mais c'est surtout l'idée de la réparation, en fait.
Mais d'où elle vient, cette nécessité de la réparation? La réparation de quoi, selon vous?
Alors, c'est la réparation de tous les regrets qu'on peut avoir dans l'existence. J'ai eu aussi des soucis avec mon dos, avec mes genoux. Enfin bon, je me suis fait réparer de partout aussi. Donc, c'est une chose qui m'interdisait un tout petit peu de repenser au cinéma comme cadreur, par exemple. Ça a dû jouer aussi, mais la réparation, c'est aussi une réparation par rapport à l'existence, tout ce que j'avais raté, par exemple de mon premier fils, comment j'ai fabriqué une famille, quoi. Et c'était tard dans ma vie, et chose que je n'avais jamais fait avant, aussi mal qu'il fallait réparer.
Faire le cadre, c'est effectivement la désignation professionnelle de votre métier d'autrefois, faire le cadre. Ouais. Donc vous avez décadré.
J'ai un petit peu décadré. Enfin, disons que je suis passé au contre-champ, quoi. Et je me suis retourné, en fait. Et c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Alors, depuis quelques années, là, depuis 5 ans, je recadre de nouveau en faisant de la photographie. Chose qui est apparue totalement par hasard dans ma vie, parce que j'avais pas du tout envie d'image. Et puis, curieusement, je me suis rendu compte que j'avais accumulé sans doute un vrai désir d'image qui aujourd'hui réapparaît dans ce que j'essaye de faire avec la photographie.
Vous êtes vous-même cinéaste, Bruno Nuitaine. On reviendra sur vos films et notamment sur ce Camille Claudel qui, pour le bonheur de tous, ressort en salle. Mais je ne sais pas si c'est la chance ou si c'est quelque chose qui vous étiez particulièrement destiné, mais vous avez choisi auparavant des cinéastes extrêmement importants avec qui vous avez travaillé. Parmi ces cinéastes, il y a Marguerite Duras, qui a été, je crois, très importante pour vous et qui peut-être continue à l'être dans sa manière de voir le monde. Je vous propose d'écouter sa voix. Elle va évoquer le cinéma différent. C'est une archivina du 6 décembre 1975, et comme cinéaste différente, elle s'entendait bien à faire un autre cinéma, et on écoutera une bande-son d'un film que nous chérissons, et je sais que vous l'aimez beaucoup, c'est India Song.
On dit qu'il y ait 100 spectateurs, qu'il y en ait 100 000 ou 3. Ce n'est pas ça qui fait la définition d'un film du cinéma dit différent. Je crois que c'est un phénomène politique qui est à la base de ça. Si vous voulez, moi, je suis passé à faire du cinéma par lassitude devant le cinéma de consommation. Pour ne plus le subir, si vous voulez. C'est un acte politique, faire du cinéma différent. C'est un acte de rupture, de refus.
C'est un acte de libération.
C'est indéniable.
Chanson, toi qui ne veux rien dire. Qui me parle d'elle, et toi qui me dis tout. Oh, toi, que nous dansions ensemble, toi qui me parlais. Qui te chantait, toi qui me parles d'elle.
Alors nous avons tous reconnu la voix de Jeanne Moreau sur cette merveilleuse musique d'India Song, Bruno Nuitaine. Marguerite Duras vient de dire que c'était en 1975. Au micro de Dominique Noguès, qui hélas vient de disparaître et qui a enseigné très longtemps le cinéma expérimental dans l'université française, que c'était un acte politique de faire du cinéma différent. Est-ce que vous vous revendiquez de cette lignée? Première question. Et que s'est-il passé entre vous, entre Marguerite et vous ?
Je peux pas revendiquer ce genre de choses parce que d'abord j'entends une voix de Marguerite, mais je connaissais, c'était l'autre que j'entendais aussi. Il y a, pour moi, il y a toujours deux Marguerites. Enfin, une Marguerite à deux faces. Et moi, mon adresse était à l'autre face, en fait. Et l'autre face s'adressait à moi, pas celle qu'on vient d'entendre. Le rapport avec Marguerite, c'est un rapport assez étrange, mais qui a été très marquant dans ma vie. C'est que du jour où je l'ai rencontrée, et c'était un ami à moi qui s'appelle Luc Béraud qui me l'avait fait rencontrer pour que je puisse faire la lumière d'un film qui s'appelait « Jaune le soleil », et elle avait décrété que j'étais trop jeune. Mais le contact a été pris à l'instant même où on s'est rencontrés, et elle a voulu que je sois là. Donc elle s'est débrouillée pour que je sois là, pour Jaune le soleil, pour Nathalie Granger, et après elle m'a laissé la main sur un film qui s'appelait La femme du Gange.
Vous deviez avoir beaucoup de compétences techniques, mais vous êtes un beau garçon, ce qu'elle ne dédaignait pas.
C'est pas tellement ça, c'est qu'elle adorait les jeunes gens. Elle adorait les jeunes gens, mais elle m'a pas abordé comme ça du tout. Elle m'a abordé comme une grande sœur aborde un petit frère, du genre toi là, je vois que tu comprends rien à rien, donc je vais essayer de te dire deux trois choses qui seront peut-être essentielles à ta vie, voilà. Notamment à propos des femmes. C'était très surprenant pour moi, mais en même temps j'étais, enfin comment dirais-je, j'étais sous le charme évidemment.
Une sorte de tutorat.
Oui. Oui, qui s'est d'ailleurs soldé par cette curieuse dédicace de l'amant, qui était en fait le moment où on s'est définitivement quitté, puisque c'était le dernier film qu'elle faisait, et elle l'annonçait comme tel, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de cinéma.
Alors, faut que vous expliquiez l'histoire de l'amant.
Faut que j'explique. C'est difficile parce que moi, je connais pas forcément la réponse. Toujours est-il que on a tourné, bon, en fait, son fils, Jean Mascolo, voulait tourner un film à partir d'une nouvelle qui s'appelle A. Ernesto, qui est devenue La pluie d'été plus tard, etc. Bon, donc il m'avait sollicité pour faire l'image. Et au dernier moment, Marguerite a décidé qu'elle ferait le film, et pas son fils. Mais ils le feraient ensemble, quoi. Mais c'est elle qui le faisait. Et donc, on s'était pas vu depuis un moment, parce que d'abord, je travaillais beaucoup ailleurs, et j'avais pas fait tous ces films. Donc c'était pas vu depuis longtemps, et puis on a eu c'était comme un dernier moment où on pouvait passer du temps ensemble. Pendant le tournage, elle m'a donné le manuscrit de l'amant. Enfin, c'est pas le manuscrit, c'était tapé à la machine, une photocopie, qu'elle m'a donné un soir pendant le tournage, et je l'ai lu dans la nuit, évidemment, en passant les premières pages, bien sûr, en me précipitant sur le texte. Et le lendemain, elle m'a dit, alors? Je dis, alors, Marguerite, c'est très beau. Ça dit, il y a des choses que je préférais d'elle que l'amant, c'est pas... Mais je lui ai pas dit ça. Mais c'est vrai, j'étais charmé par le fait qu'elle me donnait ce privilège de le lire dans les premiers, quoi. J'étais surpris par sa déception, en fait. Et le soir, j'ai découvert qu'elle me l'avait dédié. Ça m'a beaucoup perturbé, à vrai dire. Parce que déjà, l'ambiguïté du titre, enfin bon, j'ai jamais été l'amant de Marguerite. Ou alors, si je l'ai été, c'est d'une autre manière, mais pas physiquement. Comme là, il s'agit quand même d'un amant physique, principalement. Donc, je lui ai reposé la question. Je lui ai dit, Marguerite, je suis troublé par cette dédicace. Comment tu peux me l'expliquer ? Elle m'a dit, tu devrais comprendre, Bruno. Bon, et on en est resté là. Alors, tu devrais comprendre, effectivement, ça me renvoyait à nos premiers pas ensemble. Cette position de grande sœur par rapport au petit frère. Et c'est comme ça que je peux le comprendre le mieux. Sinon, bon, je peux inventer des choses un peu aberrantes, mais ça n'aurait pas de sens. Et effectivement, j'ai appris énormément de choses avec elle, notamment sur la donnée érotique qu'il y a dans India Song, qui est quand même très très forte. Là, je viens de le revoir, enfin je l'ai revu là, au moment de la rétrospective à la Cinémathèque. C'est vrai que c'est extrêmement troublant, le corps de Delphine est posé comme ça, comme un objet du désir. Et surtout, comme je l'avais d'ailleurs dit dans un film que Caroline Champetier avait fait sur mon travail, elle avait réussi à ce que tous les hommes du plateau soient dans ce désir-là, quoi. Et j'avais trouvé ça magnifique. Donc il y a eu beaucoup de choses comme ça avec Marguerite qui ont été pour moi très importantes, quoi. Par contre, c'est vrai que quand j'ai Quand je l'ai rencontré, j'étais seul dans la vie. Et quand j'ai commencé à avoir une histoire d'amour, Marguerite s'est un peu éloignée. Elle était quand même très exclusive.
Alors cet amour-là a été immortalisé dans cette chanson, mais cet amour-là a continué comme pratique cinématographique. Tout à l'heure, Marguerite Duras a dit que elle faisait du cinéma parce qu'elle était lasse du cinéma de consommation. Elle a souvent dit aussi qu'elle faisait du cinéma quand elle avait besoin de retrouver un collectif de personnes vivantes pour échapper à la solitude terrible et difficile de l'écriture, de la chambre d'écriture. Marguerite Duras ne s'est pas intéressée qu'à des beaux garçons comme vous, Bruno Nuitten. Elle s'est intéressée aussi à des femmes. Vous parliez de Delphine Seyrig, Jeanne Moreau. Et elle a fait naître le talent, ce que les gens ont quand même complètement oublié. Elle a fait naître le talent, elle a donné de la chance à des comédiens qui n'étaient pas encore connus. Vous avez travaillé avec Marguerite au moment d'un de ses films qui n'a d'ailleurs pas obtenu un très grand succès et qui reste aujourd'hui comme une des merveilles du cinéma, mais qui à l'époque n'a pas eu grand succès, c'est Nathalie Granger. Je vous propose d'écouter la voix de Gérard Depardieu, qui a été donc découvert par Marguerite Duras lors de ce film Nathalie Granger. Il va parler avec un de ses metteurs en scène, Claude Régis. C'est une archive INA du 16 juillet 2002.
Ben moi, j'ai commencé à vivre avec... j'ai eu deux initiateurs grands qui ont fait partie de ma vie et je m'en suis rendu compte et je m'en rends compte tous les jours. Il y avait Jean-Laurent Cochet en Attaque et par la suite Claude Régis. Quand je dis par la suite, c'était en même temps, c'était simultané. Derrière la nature que j'étais, finalement, j'étais les deux, quoi. Et j'étais autant le silence de Claude, un silence contrôlé, maîtrisé, que la ponctuation d'un Jean-Laurent Cochet. Et donc, derrière tout ça, j'avais la liberté, ma vie, quoi. C'est-à-dire que j'ai toujours été libre. Et c'est ce que tous les deux ont compris, sans jamais mettre de contraintes. Ils savaient que la vie m'avait appris à changer de trottoir dès que je trouvais une connerie un peu grosse sur le trottoir. Ils savaient que je pouvais me débrouiller comme ça. En revanche, les textes, je ne savais pas. Je les disais par instinct et je suivais ce qu'on me chargeait. Hein, on me donnait une charge à porter et je la portais. Et comme j'étais costaud et toujours euphorique, comme dirait Michel Tournier, c'est-à-dire je portais bien. Et donc je faisais ça avec le sourire et le rire, ce que je continue de faire d'ailleurs, tout en ne comprenant pas systématiquement ce que je dis. L'anglais par exemple, je n'y entends rien, je répète ce que j'entends, et puis bon, disons que j'ai peut-être une oreille musicale plus que n'importe quel talent. Mmh. Et puis surtout, s'il y a un talent, c'est la liberté.
Alors, on vient d'entendre cette archive de Gérard Depardieu. Donc, c'était en 2002. C'était lors d'une rencontre au Festival d'Avignon. Gérard Depardieu était venu rendre hommage à Claude Régis, avec qui il a fait ses premiers pas sur les plateaux de théâtre. Mais c'est bien Marguerite Duras avec qui il a commencé au cinéma. Vous étiez de l'aventure, Bruno Nuitten, mais vous avez continué cette aventure, vous, avec Gérard Depardieu.
Bon, Gérard avait déjà travaillé avec Claude Régis, je crois, avant que Marguerite nous le présente. Bon, j'étais assistant caméra sur ce film, et c'était Guylain Cloquet qui faisait la photographie. Et elle avait fait tout un show autour de l'arrivée de ce Gérard Depardieu. Enfin, elle n'avait même pas dit son nom. Elle a dit, vous allez voir ce que vous allez voir. Et donc, elle avait, le jour où il devait tourner pour la première fois dans ce film, elle lui avait interdit de s'approcher de sa maison, on tournait chez elle. Donc il était resté dans une petite fourgonnette au loin et elle nous avait fait mettre la caméra devant sa porte, à l'intérieur mais devant sa porte. Elle avait refermé la porte sur la caméra et elle avait lancé Gérard avec sa fourgonnette qui devait s'arrêter devant sa maison et venir droit sur nous. Moi j'étais au point, donc j'ai vu d'abord ses pieds parce que il fallait que je m'occupe de mon point, mais j'ai vu surtout cette espèce de démarche invraisemblable de ce type. Et c'était magnifique. Alors, c'est très curieux parce que j'ai raconté ça au moment de la rétrospective et je parle de ce plan. Et dans le film qu'on a projeté, il a disparu. Il a disparu et pourtant il y a d'autres témoins que moi. On l'a tourné ce plan. Bon, enfin bref, ce qui était très marquant en revoyant le film d'ailleurs, c'est la présence de Gérard est absolument extraordinaire dans le film.
Qui vendait quoi? Des machines à laver?
Il vend des machines à laver, oui. Et donc, il fait tout un numéro autour de ces machines à laver. En plus, le texte est très drôle. Non, c'est magnifique. Et c'est vrai qu'après, moi, j'ai retrouvé Gérard sur La Femme du Gange, sur Les Valseuses. Enfin, après, on s'est plus quittés. On a fait beaucoup de films ensemble. Et surtout, notamment sur Barocco, Gérard est entré
D'André Téchiné.
Voilà, d'André Téchiné. Film introuvable aujourd'hui, mais enfin...
Magnifique film.
Pour l'instant, on l'a pas trouvé.
Un des plus beaux de Téchiné.
Ouais. J'ai pas pu le montrer à la rétrospective, il n'existe plus pour l'instant. Et donc, c'est-à-dire que Gérard est entré dans ma fiction intime, si je peux dire une chose comme ça.
Ah, mais ça, c'est intéressant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, en tant que chef opérateur et cinéaste, comment des personnes bien réelles qui deviennent des personnages devant votre caméra, quand vous faites le point, comme vous avez dit tout à l'heure, tout d'un coup s'intériorisent à l'intérieur de votre psychisme et deviennent des entités à part entière, quoi.
C'est-à-dire que je l'ai vu, au fur et à mesure de mon travail, je l'ai vu, d'abord, comme je cadrais moi-même presque tous les films que j'ai éclairés, je les cadrais aussi. Donc j'avais ce rapport très particulier du cadreur avec les acteurs, qui est quand même un rapport dans l'intimité de l'acteur, puisqu'on le voit avant les prises, pendant les prises, et aussi après les prises.
En fait, vous connaissez mieux les acteurs qu'eux-mêmes, celles et ceux que vous filmez.
C'est-à-dire qu'un acteur travaille toujours sur un secret, c'est-à-dire qu'il a son secret, c'est un peu son combustible intime, quoi. Et il faut pas vouloir brutaliser ce secret-là. Par contre, on peut assister à ce secret sans pouvoir en tirer vraiment ni le dessin ni la conclusion, mais on peut assister à cette chose assez miraculeuse que font les acteurs quand ils jouent, c'est-à-dire comment ils se lancent dans la chose, comment ils arrivent à jongler avec une scène et comment ils s'en sortent ou pas d'ailleurs. Parce que quelquefois, des acteurs ont du mal à sortir des choses. C'est pas le cas de Gérard, hein. Au contraire. Et Gérard avait cette particularité de proposer de multiples facettes, en fait. Et je l'ai vu d'ailleurs dans des situations de films totalement... il faisait des choses extrêmement différentes d'un film à l'autre. Et il avait aussi toujours cette élégance de retomber sur ses pieds dès que ça s'arrêtait de tourner, éventuellement dire une ânerie au passage, quoi. Ce qui faisait rire tout le monde, mais cette façon de lâcher la chose et un peu de déconcentrer les autres aussi, quand même. Parce que Gérard, c'est un curieux animal, hein. Et peu à peu, cette silhouette, cette démarche, cette voix... En plus, il y a quelque chose d'un tout petit peu faux dans sa façon de dire les choses, que je trouve très importante pour les acteurs. Aujourd'hui, on est beaucoup confronté aux acteurs justes. Les acteurs justes, pour moi, c'est c'est bien à voir, mais c'est pas forcément là où il faut qu'un acteur essaye de trouver sa place, en fait. Je pense qu'il faut être toujours un peu à côté pour que ce soit intéressant. Dans la mesure où, mais c'est comme pour tout, hein. Il faut toujours annoncer la couleur de la fiction, quoi. Je pense que même dans la lumière, même dans la mise en scène, on peut pas se permettre de faire semblant que tout est vrai, parce que tout est faux, et c'est ça qui est intéressant, à mon sens. Et Gérard a cette façon de jouer, un peu décalée, que moi j'aime beaucoup. Alors décalée quelquefois aussi par paresse, parce qu'il peut être... si on le tient pas, Gérard c'est un enfant... C'est comme Michel Serrault, c'est des enfants insupportables. Comme Michel Simon, enfin c'est la même catégorie. Donc ce sont des enfants qui peuvent devenir insupportables si on les tient pas à un moment donné.
Le cinéma, c'est plus vrai que la vie ?
Non, ça c'est pour l'écriture, ça. Non, l'écriture, c'est plus vrai que la vie. Le cinéma, je pourrais pas dire ça, non. Mais pourquoi pas, d'ailleurs, c'est une autre écriture. Mais j'ai jamais pensé comme ça. C'est plus vrai dans la mesure où c'est plus synthétique. Mais est-ce que c'est plus vrai pour autant ? Je sais pas, là vous me posez une colle.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Bruno Nuiten, la chanson de Maxence, Jeanne Haddad et Stéphane Kerecki.
Je l'ai cherché partout, j'ai fait le tour du monde. De Venise à Java, de Manila encore. De Jeanne à Victoria. De Vénus en Joconde, Je ne l'ai pas trouvée et je la cherche encore. Je ne connais rien d'elle et pourtant je la vois. J'ai inventé son nom, j'ai entendu sa voix. J'ai dessiné son corps et j'ai peint son visage. Son portrait et l'amour ne font plus qu'une image. Elle a cette beauté des filles romantiques et d'un Botticelli le regard innocent. Son profil est celui de ces vierges mythiques qui hantent les musées et les adolescents. Sa démarche ressemble aux souvenirs d'enfants qui trottent dans ma tête. Et danse en rêvant. Sur son front, ses cheveux sont de l'or en bataille que le vent de la mer et le soleil chamaillent. Je pourrais vous parler de ses yeux, de ses mains. Je pourrais vous parler d'elle jusqu'à demain. Son amour, c'est ma vie. Mais à quoi bon rêver? Je l'ai cherchée partout, je ne l'ai pas trouvée. Est-elle loin d'ici? Est-elle près de moi? Je n'en sais rien encore, mais je sais qu'elle existe. Est-elle pécheresse ou bien fille de roi? Que m'importe son rang, puisque je suis artiste. Que l'amour dicte sa loi.
Merci pour ce choix. Pourquoi ce choix? C'est la revisitation des Demoiselles de Rochefort par une jeune femme extrêmement sensuelle.
Oui, d'abord c'est une chanteuse que j'apprécie beaucoup, depuis un moment d'ailleurs. Bon, ça c'est sa première phase, c'est la phase un peu jazzy. Et je trouve que c'est toujours intéressant de tout à coup entendre un texte. Parce que cette chanson, on a tous la musique en tête, mais le texte, à mon avis, on l'a rarement entendu comme ça, quoi. Et cette décomposition des mots, je trouve que c'est une magnifique proposition par rapport au texte original. Voilà. Et puis c'est très, très bouleversant, quoi. Le ralentissement mélodique aussi participe à ça. Avec la contrebasse au début. Enfin, je sais pas, je trouve ça très beau. Et puis une apparition du piano qui est très discrète, mais très jolie, quoi.
Comment vous êtes-vous décidé, Bruno Nuitaine, à aller de l'autre côté de la caméra, si j'ose dire, après avoir servi des grands maîtres comme Duras, Berry, Téchiné et d'autres? Pourquoi tout d'un coup, vous ça serait
dire,
vous?
L'autre côté, vous voulez dire quoi?
Ben de l'autre côté, c'est-à-dire signer le film.
Ah, signer le film.
Ouais.
Parce que l'autre côté, c'est jouer. Hein.
Ah oui, non, mais non. C'est
derrière.
Jouer le rôle du réalisateur.
Oh,
vous avez parlé d'écriture tout à l'heure, vous
oui,
signez le film.
Oui, enfin, c'est, ouais. Enfin, disons que, comme j'étais au bout d'une expérience, qui était celle de l'image, c'est vrai que j'avais, et que j'adorais les acteurs, je me suis dit, ce serait bien quand même si je pouvais tenter un film comme réalisateur. En même temps, le mot réalisateur ne signifie pas grand-chose pour moi, si ce n'est que c'est une position compliquée, en fait. Extrêmement compliquée. Parce que déjà, il faut séduire un producteur. Voilà. Il faut trouver de la thune, quoi. Et puis non seulement ça, mais au-delà du film lui-même, il faut savoir en parler. Alors, ce sont deux choses dont j'étais relativement incapable. Connaissant ces deux défauts, il fallait, je m'y suis quand même collé en me disant je vais trouver. Alors l'argent, j'ai fini par le trouver, mais c'est pas moi qui l'ai trouvé. C'est parce que Isabelle avait ce projet de Camille Claudel qu'elle me l'a proposé. Donc au départ, c'est une commande. Et que je me suis dit, pour que je puisse trouver ma place dans ce projet, il faut que j'en sache plus que tout le monde sur le sujet. Donc je m'y suis collé au sujet, et vraiment sérieusement, quoi. Avec une amie qui s'appelait Marilyn Goldin, qui est décédée maintenant, qui est une Américaine, et on a fait tout un travail d'approche de ce personnage ensemble. Et puis elle est rentrée aux États-Unis, donc je me suis retrouvé sans rien d'écrit, mais beaucoup, beaucoup de choses accumulées autour du personnage. Et j'ai commencé à l'écrire tout seul, en fait. Chose que j'avais jamais faite, hein. Mais simplement pour me dire, voilà, je crois que là, je vais trouver ma place. Alors, il y avait des pages et des pages d'écriture, du pire et du passable, sans doute. Et Isabelle venait me visiter tous les soirs. J'avais loué une loge de concierge en bas de chez moi pour travailler. Et elle lisait ce que j'avais écrit dans la journée, et soit elle déchirait tout et ça allait au panier, soit elle gardait les choses. Et moi, évidemment, je récupérais tout ce qu'il y avait dans le panier pour recoller les pages en me disant ça pourra peut-être toujours servir. Ce qui a été le cas quelquefois, d'ailleurs. Donc c'était une espèce de jeu comme ça, mais en même temps, c'était une façon aussi de l'aborder par rapport au personnage qu'elle avait envisagé d'interpréter, dont elle connaissait moins que moi à ce stade-là. Puis après, bon... Comme elle est, Isabelle, au dernier moment, elle a investi tout ce qu'elle pouvait trouver comme chose sur Camille pour pouvoir y aller, quoi. Mais c'est toujours une extrémiste. Isabelle, c'était toujours une extrémiste, toujours la veille au soir, quoi. Et il y a une nuit blanche et puis tout ça. Voilà.
Ben, je vous propose d'écouter la voix de Paul Claudel. Il va évoquer son enfance et la vocation artistique. De sa sœur, ça vous fait rire d'avance, mais vous allez voir, non, c'est effectivement, vous le connaissez, c'est au micro de Jean Amrouche, c'est les fameux entretiens de Paul Claudel avec Jean Amrouche, qui sont une mine et un trésor national, et c'est une archive INA du 31 janvier 1951.
De Bar-le-Duc, mon père a été nommé conservateur des hypothèques à Novant-sur-Seine, et c'est là où j'ai suivi l'enseignement d'un professeur excellent qui s'appelait Colin. C'était un journaliste et un professeur d'occasion. Et puis alors, de temps en temps, il nous lisait des choses que je trouvais magnifiques. Par exemple, les extraits des morceaux choisis d'Aristophane. Bien entendu, il ne lisait pas tout. De la chanson de Roland, le roman d'Urnard. Enfin, des textes qu'on ne lit pas d'habitude aux enfants et qui nous enthousiasmaient, ma sœur et moi. Alors, ensuite, je suis allé dans un petit collège à Vassy, où nous étions 6 ou 7, dont j'ai gardé également un bon souvenir. Et puis alors s'est produit le cataclysme dans la famille. Ma sœur, trouvant qu'elle avait une vocation de grande artiste, ce qui était malheureusement vrai, n'est-ce pas, ayant découvert de la terre glaise, elle avait commencé à faire des petites statues qui ont frappé M. Alfred Boucher, le statuaire. Alors, ma sœur, qui avait une volonté terrible, a réussi à entraîner toute la famille à Paris, voulant faire de la sculpture, moi, ce qui paraît, ayant une vocation d'écrivain, ma sœur, mon autre sœur de musicienne. Enfin, bref, la famille s'est séparée en deux. Mon père est resté à Vassy et nous sommes allés à Paris, boulevard Montparnasse, où nous nous sommes installés.
Alors, nous venons d'entendre la voix de Paul Claudel. Sur Paul Claudel et sa sœur Camille Claudel, il y a eu de nombreux textes, de nombreux romans, de nombreux essais, de nombreux films aussi. Votre film, lui, ressort en salle, et quand on le revoit, on est saisi par l'intensité, justement, de l'électricité. Et je veux dire, de l'intensité de la passion, du registre de la passion, de l'intensité de la lumière, de tout ce qui peut s'échanger entre les êtres sans que ça soit forcément dit. C'est Isabelle Adjani qui interprète Camille Claudel. Et moi, je me suis demandé si c'était pas vous, Camille Claudel, au fond.
Alors, disons que chacun a son rosebud, si on veut dire. Et moi, c'était un type qui s'appelait Pigeon. Et quand j'étais à l'école, j'étais un très mauvais élève, mais par défaut, hein, j'étais pas du tout un cancre, mais je comprenais rien à ce qui se passait, sauf le dessin. Et il y avait toujours un type qui était premier, qui s'appelait Pigeon, et moi j'étais toujours second. Enfin, disons, c'est la seule chose qui me valorisait un peu aux yeux de mes parents. Et j'ai donc voulu faire les arts déco. Et je me suis préparé dans l'atelier où était Camille, qui s'appelait Charpentier, et qui s'appelait Collard aussi à l'époque de Camille. C'est le même endroit. Donc on avait déjà ce point commun. Enfin, je le découvre après, bien sûr. Et je me suis rendu compte en arrivant dans cet atelier qu'il y avait que des pigeons partout. C'est-à-dire qu'ils étaient tous plus doués que moi. Donc je me suis présenté aux arts déco. Je l'ai pas eu. De toute façon, il fallait 2 ans de préparation. Je me suis préparé 6 mois. Mais j'ai vu que il y avait des gens tellement doués que c'était pas la peine d'insister. Et c'est comme ça que j'ai décidé, sans savoir, de me préparer à l'IDEC, que j'ai d'ailleurs raté aussi. Mais j'ai fait une année formidable de préparation avec un garçon qui s'appelait Noël Birch, qui est un théoricien du cinéma, et Jean-André Fieschi, qui était lui-même un critique, réalisateur. Et ces deux personnes ont été fondamentales dans mon rapport au cinéma. Et eux m'avaient indiqué la mise en scène, et au dernier moment, je me suis dit, c'est pas raisonnable, j'ai absolument rien à raconter, j'ai pas de point de vue sur le monde, donc il faut absolument que je fasse un métier qui me permette de vivre. C'est comme ça que j'ai décidé de faire la prise de vue, quoi. Je sais pas si j'ai répondu à votre question.
Pas vraiment.
C'était quoi?
Est-ce que vous étiez plutôt du côté de Camille Claudel plutôt que Paul Claudel?
C'est-à-dire que c'est curieusement le... Ah non, Paul, certainement pas. Non, certainement pas. Non, j'étais... je suis devenu un peu Camille Claudel à la sortie du film.
Mais vous n'êtes pas Rodin non plus, hein, pour autant.
Pas du tout, non. Pas du tout. Disons que je suis... Je me suis trouvé dans la situation un peu Claudel, c'est-à-dire que le film m'avait dépassé et je n'existais plus au-delà du film. Donc c'était parce que tout à coup c'était évidemment Isabelle qui était le sujet central et sa performance l'indiquait, c'était normal, et puis c'était un peu son projet quand même au départ, même si elle l'a pas produit elle-même, elle l'a un petit peu coproduit, quoi. Et donc je me suis trouvé dans la position de l'oublier. C'est très curieux, hein.
Et mais vous détestez pas ça?
Je déteste pas ça, mais là, ça m'a fait un peu de mal parce que je m'étais quand même donné énormément de mal pour ce film. J'ai quand même travaillé presque 4 ans non-stop sur ce truc. En plus, il avait fallu faire une version américaine, une version pour la télé. Enfin, j'ai pas arrêté de remonter ce film. Donc, je suis sorti de là totalement épuisé. Et ce qu'on ignore souvent, c'est que la promotion d'un film dans le monde entier, c'est un truc, c'est tuant, quoi. C'est tuant. C'est une horreur. Et ça empêche de penser au suivant. Donc ça, c'est un peu... Donc je suis sorti de là laminé, en fait.
Ben voilà, le film ressort. J'imagine que vous en êtes heureux. En tout cas, nous, on en est heureux. Dans cette émission, on demande à quelqu'un qui connaît bien votre travail, vous avez évoqué son nom tout à l'heure, de parler de l'invité. Caroline Champenetier est une grande chef opératrice dans le monde du cinéma. Elle vous connaît bien, vous avez évoqué un film qui est absolument magnifique, où vous avez accepté, Bruno Nuitaine, que sa caméra vous suive à l'intérieur de votre propre maison, comme une sorte de journal de bord extrêmement intime et un atelier de pensée tout à la fois. Écoutez ce que Caroline Champetier dit de vous.
À travers certaines images, photos de Bruno, c'est une extrême féminité, assez simplement ses cheveux longs, et moi qui me pose beaucoup de questions sur le fait que j'embrasse une carrière technique qui est plutôt masculine, c'est quelque chose qui me rassure. Après, dans les années 80, il y a un croisement étrange sur un film de Jean-Luc Godard, qui est détective, où Jean-Luc m'a demandé de faire des photos, des images. Et Bruno est le directeur photo du film. Les choses se passent parfois difficilement entre Godard et Bruno. C'est un poste que Godard a toujours questionné, l'image. Et en tout cas, le rapport de ces mercenaires de l'image, de ces techniciens au cinéma, assez malencontreusement, il met Bruno sur le feu et un jour, il se trouve qu'il y a une caméra qui est là et je demande à cette caméra, je dis au type, mais filme, c'est intéressant. C'est une violente altercation entre Godard et Nuitaine. Et je crois que son équipe et lui m'en ont beaucoup voulu et en même temps, je ne faisais évidemment pas ça contre qui que ce soit. Je faisais ça parce que ce qui se passait pour moi était passionnant. Et puis, beaucoup plus tard, au Fresnois, dans les années 2016, où je suis artiste invitée, je propose à Alain Fléchère, qui est enthousiaste à cette idée, que mon travail d'artiste invité au Fresnois soit sur Bruno Nuitaine et un film à propos de Bruno. Il en résulte 8 heures d'entretien, dont je me sers d'une heure pour faire ce film qui va à sa rencontre et à la rencontre des images qu'il a produites. Ce qui était difficile, c'est de l'entendre et évidemment toutes ces images passent après sa parole. Quand je dis difficile, c'était de fabriquer un film où finalement la parole était plus importante que les images, quoique. Quand j'ai envie de rire, je dis que Bruno, c'est mon beau au bois dormant. Donc, je l'ai sans doute réveillé de quelque chose. Et un an ou deux ans plus tard, il est lui-même artiste invité au Fresnois. Et il commence à travailler sur des images très intimes qu'il fait avec son portable, qui moi me bouleverse, c'est-à-dire un torrent d'images. Comme si effectivement quelque chose s'était ouvert et que Bruno maintenant ne pouvait plus s'empêcher de produire des images. Oui, il y a autour de l'image quelque chose entre lui et moi qui, j'ai l'impression, ne s'arrêtera pas. Voilà, c'est pour ça que je suis tellement heureuse à la fois de ces images anciennes que nous allons redécouvrir à la Cinémathèque, mais de celles qui se profilent et qui sont à venir.
Ben voilà une belle déclaration d'amour, Bruno Duitaine. Il nous reste 3 minutes.
Carrément.
Alors, les images, vous avez parlé tout à l'heure de cycle de vie. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous êtes réconcilié avec vous-même, réconcilié avec l'image et très heureux. Et que tout d'un coup, l'artiste renaît de ses cendres et de ses interrogations et de ses doutes.
Bah, disons que je suis d'abord réconcilié avec le film Camille Claudel. Ça a été compliqué pour moi, mais comme je l'ai restauré, puisque Pierre Lhomme préférait me confier cette tâche, je l'ai redécouvert aussi, le film. Et surtout, j'ai découvert la position que j'avais dans le film, chose que j'avais totalement ignorée jusque-là. Je pensais ne pas avoir eu de position dans ce film. Et en fait, j'y suis. J'y suis absolument. J'y suis dans mon intimité aussi, dans des choses vraiment intimes de ma vie. J'ai eu 2 sœurs qui ont eu des adolescences très difficiles, dont une qui est morte maintenant, et donc ça m'a beaucoup inspiré pour certaines choses de Camille, et je m'en suis servi. Donc voilà, en dehors de ça, effectivement, il y a ce retour vers l'image, et ça, c'est grâce ou à cause de Caroline, qui est quand même une sorcière bien aimée. C'est vrai que je peux plus m'arrêter d'en faire. Je pense que je suis parti pour 15 ans d'images, j'en ai déjà 5 derrière. Mais j'ai déjà 15 000 images, donc il va falloir quand même que je fasse le tri. Dans 15 ans, alors par contre, je sais pas ce que je vais faire après, mais je serai déjà très très âgé. Donc je sais pas, je vais peut-être me mettre à la musique ou un truc comme ça, non?
Ben, merci beaucoup, Bruno Nuitaine.
Et de rien.
Comme un arrière-goût des années 90 dans le 83. Du jour au lendemain, je prends la route. Je vais laisser les galères là-bas. On a mangé Mazar et moi, tu sais pas. La famille de cœur a pris de l'ampleur. Pas d'empereur, même si l'empire est là. Tout à dire trop beau, pieds noirs et renois. We don't give a fuck and we pray every day. Ici j'ai tout fait, je sens plus mes doigts. Pourquoi la France est venue me chercher mais ne veut pas de moi? We don't give a fuck and we pray every day.
C'était Empire de Camélia Giordana. Merci à toutes et à tous. Merci à Loïc Frapsos qui était à la technique ce soir, à Jean-Baptiste Audibert pour ses précieux conseils musicaux, à l'équipe, à Anne-Sophie Dazard, Élodie Royer, Antoine Joubert et à Lilian Allôme qui a réalisé cette émission. Après le prochain journal de la rédaction, vous avez rendez-vous comme chaque vendredi soir pour danser et chanter avec Didier Varro pour Foule Sentimentale.